Alors, donc, nous continuons notre parcours sur la messe. Et rappelez-vous, nous nous étions arrêtés à l'homélie. Voilà. Qu'est-ce qu'une bonne homélie? Voilà. Vraiment, pour la question de l'homélie, je vous invite à lire ce que dit le pape François dans La joie de l'évangile, où il développe largement, voilà, ce qu'est une bonne homélie. Alors après l'homélie qui était comment dire, comme une première réponse à la parole de Dieu, hein, la parole nous a été annoncée, et donc l'Église, dans la personne du prêtre, répond à cette parole. Nous allons avoir une deuxième réponse et une troisième réponse qui sont le credo et la prière universelle. Le credo, c'est quoi? Alors, pourquoi le credo? Donc, aujourd'hui, c'est le thème, c'est donc le credo et la prière universelle. C'est marqué dans le titre de la feuille, hein, donc c'est assez facile. Pourquoi le credo est situé à ce moment-là? Eh bien, le credo est présenté dans le catéchisme, en fait, comme un condensé de la foi chrétienne. Vous n'avez pas le texte, mais je vous le donne. Donc, le catéchisme au numéro 185. On nous dit quoi? Dès l'origine, l'Église a exprimé et transmis sa propre foi en des formules brèves. Mais très tôt, déjà, l'Église a voulu recueillir l'essentiel de sa foi en des résumés organiques, articulés, destinés surtout aux candidats du baptême. Vous allez être baptisé, ben, en quoi faut-il croire? Voilà, donc on va vous mettre ça par écrit dans un petit texte. Et donc, Saint Cyrille de Jérusalem dit ceci dans une catéchèse. Cette synthèse de la foi n'a pas été faite selon les opinions humaines, mais de toute l'écriture a été recueilli ce qu'il y a de plus important. De toute l'écriture a été recueilli ce qu'il y a de plus important. Tout ça, vous avez au numéro 185, hein, du catéchisme. Donc voilà, on a entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles. Une première lecture, une deuxième, un psaume, un évangile, ça fait beaucoup de choses. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il faut croire? On peut croire n'importe quoi, enfin, voyez. Bon. Eh bien, l'essentiel, c'est simple. De toute l'écriture a été recueilli ce qu'il y a de plus important pour donner au complet l'unique enseignement de la foi. Et comme la semence de Senevé contient dans une toute petite graine un grand nombre de branches, de même ce résumé de la foi renferme-t-il en quelques paroles toute la connaissance de la vraie piété contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons l'essentiel. Quelqu'un vous dit, mais en quoi vous croyez-vous? C'est quoi votre foi? Eh bien, vous pouvez lui dire le credo. Voilà en quoi je crois. Voilà. Ça, c'est important. C'est simple, parce que les gens disent, ouais, c'est compliqué la foi, la Bible, c'est compliqué. Écoute, si tu as du mal avec la Bible, eh bien, l'essentiel, il est là. Voilà, dans ce résumé. Donc ça, c'est la première chose, hein, le credo comme un condensé de la foi chrétienne. La deuxième chose, c'est une réponse de foi au Seigneur qui a parlé, avec deux dimensions. D'abord un résumé, d'accord, l'Église nous donne un résumé. Et la deuxième chose, c'est une réponse de foi. Alors, je ne vous ai pas mis le texte, quand j'ai mis le texte, je vous le dis, hein, donc ne cherchez pas. Donc là, c'est la présentation du missel romain, ce qu'on appelle PGMR, au numéro 67. La profession de foi qui se fait par le credo suit immédiatement la publication de l'Évangile, pour montrer le respect que l'Église porte aux paroles du Fils de Dieu et la parfaite soumission qu'elle rend à sa doctrine. Voilà, donc vous voyez, on nous dit la profession de foi se fait immédiatement après l'Évangile pour montrer à la fois le respect et la soumission qu'elle rend à sa doctrine. Donc c'est une attitude de cœur que la présentation du missel romain présente là. Car Jésus-Christ n'a pas plutôt achevé de prêcher son évangile, d'annoncer sa parole et de publier sa doctrine, que l'Église, sa chère épouse, obéissant à sa voix et parfaitement soumise à son instruction, s'écrie à haute voix « Credo, je crois ». Voilà, l'Église, tout de suite, tout de suite, Jésus-Christ n'a pas plutôt achevé de prêcher son évangile que l'Église, sa chère épouse, eh bien, soumise à son instruction, s'écrie, je crois. C'est cette réponse. Nous avons entendu cette parole, eh bien, nous pouvons dire, je crois. Tant que je n'ai pas entendu la parole de Dieu, je ne peux pas dire, je crois. Je crois en quoi? Ben, attends, d'abord parle. Il faut que tu parles, Seigneur. Bon, ok, tu as parlé, tu as dit ça. Et à ce moment-là, oui, je te dis, ça m'intéresse et je te dis, je crois. Voilà, alors à ce moment-là, ben, si tu crois, on va pouvoir s'embarquer dans d'autres choses. Et on va voir la prière universelle juste après. Mais tant que Dieu ne nous a pas parlé, nous ne pouvons pas dire, je crois. Ce qui veut dire que notre acte de foi est toujours nourri et précédé, on va le voir de suite, par le Seigneur qui nous parle d'abord. On va le voir de suite et avant ça, je me reviens en mémoire en fait quelques références de la Bible. Voyez, par exemple, vous avez le même système dans l'Évangile quand, par exemple, Jésus fait le discours sur le pain de vie. Vous savez, au chapitre 6 de Saint Jean, il y a tout ce discours « Qui mange ma chair, boit mon sang, aura la vie éternelle, etc. » Bon, c'est très long. Chapitre 6. Et à ce moment-là, les gens se déterminent par rapport à cette parole. Et il y en a qui quittent en disant « Mais non, nous, on ne croit pas. On ne croit pas. » Bon. Et alors, Pierre, alors tu crois ou pas, toi? Ben, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, 68. « Tu as parlé et moi, Pierre, je me détermine. » vous avez la même chose en Matthieu 16. Jean 6 et Matthieu 16 de référence pour vous montrer comment ça fonctionne, toujours pareil. Jésus fait une petite enquête. Il dit à ses disciples, alors qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors ben, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es un des prophètes. D'accord. Et pour vous alors? Compte tenu de tout ce que vous avez vu de moi, pour vous, qui suis-je? Est-ce que vous pourriez vous déterminer? Et Pierre dit, bah, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Voilà, ça veut dire je crois, j'adhère à ce que tu es. Voilà, et donc on va continuer l'aventure. Alors, cette réponse de foi, elle est codifiée. Du coup, on va parler du symbole des apôtres. C'est quoi un symbole? Dans l'Antiquité, un symbole, ce sont deux pièces, par exemple deux pièces de terre, et qu'on peut emboîter l'une dans l'autre, un petit peu comme un puzzle. Et donc, quand on faisait un contrat, entre deux personnes, pour reconnaître que bien les deux personnes sont liées par ce contrat, et bien chacune avait une partie de ce puzzle, de cette pièce, et on les mettait ensemble et du coup on voyait que la personne en face était bien la bonne personne. Donc c'est, si vous voulez, un signe de reconnaissance. Voilà. Signe de reconnaissance qui prouve la communion de ceux qui le possèdent, de ceux qui possèdent ces pièces. Et donc pour nous c'est la même chose. Le symbole des apôtres, que les catéchumènes vont redire un petit peu avant Pâques, ils le redisent normalement, le rituel demande qu'ils le redisent le samedi saint. Donc on a prévu le samedi saint une petite liturgie. Voilà, vous savez qu'il y aura une retraite cette année, enfin comme chaque année, voilà, avec le père Jean-Baptiste Hédard. Et donc nous aurons à la fin du dernier enseignement le samedi saint, et bien une liturgie où les catéchumènes vont redire leur foi. Donc, en fait, ils vont redire le symbole des apôtres pour dire, ben voilà, on est bien en communion, on se reconnaît. Je vous reconnais, enfin voilà, on se reconnaît mutuellement parce qu'on a le même texte, on a les mêmes éléments. Voilà. Bon. Alors, pourquoi il est récité le dimanche, ce credo? Eh bien, parce que le dimanche, c'est la fête de la résurrection, donc de notre naissance, hein. Nous sommes nés dans la naissance du Christ, et cette naissance du Christ, elle est dans son mystère pascal, dans sa résurrection. Parce que le Christ est ressuscité, parce qu'il est sorti des morts, eh bien, nous-mêmes, nous sommes sortis de notre péché, sortis de la mort, nous avons accès à la vie, nous entrons dans cette nouvelle naissance. Voilà. Alors, à ce moment de l'enseignement, je voudrais, pendant un long temps, vous donner quelques clés sur qu'est-ce que la foi. Donc, certains vont retrouver des choses que j'ai déjà dites par ailleurs. Comme ça fera une petite révision. Puis d'autres, je vois des personnes nouvelles, donc qui n'ont jamais entendu mes petites causeries, donc ça sera nouveau. On dit je crois, mais qu'est-ce que ça veut dire de dire je crois? Voilà. Alors, en fait, la foi nous est bien expliquée dans un texte qui est le prologue de La Porte de la foi, donc de Benoît XVI. Vous savez que Benoît XVI a écrit un premier texte, un petit texte pour ouvrir l'année de la foi. Et le pape François a fait donc un autre texte, hein, qui est comme la continuité. On a dit que c'était un texte à quatre mains, qui est La Lumière de la foi. Donc on va un petit peu jongler sur ces deux textes. Alors, La Porte de la foi, c'est le texte numéro 3 qu'on va lire ensemble. La porte de la foi qui introduit la vie de communion avec Dieu et permet l'entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. Voilà. Donc la porte de la foi, vous avez compris, hein, c'est une expression des actes des apôtres. Cette porte est toujours ouverte pour nous. Ça, c'est important, c'est-à-dire que, en fait, du côté de Dieu, il n'y a pas de souci. Dieu veut se donner, Dieu veut se faire connaître, hein. Le mystère de Noël, c'est un Dieu qui veut se faire connaître. Donc, il ne veut pas rester caché pour certains. Elle est toujours ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce seuil quand la parole de Dieu est annoncée, et que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Hein, ce que je viens de vous dire, il est possible de franchir ce seuil, de dire je crois quand la parole de Dieu est annoncée. Ah ben, ah, on comprend bien pourquoi on avait le credo juste après l'évangile et lecture. Ça pourrait être autrement, hein, on pourrait dire, ben, tiens, justement, pour se reconnaître chrétien, pour démarrer la célébration, il est important de se reconnaître chrétien, n'entre pas n'importe qui, donc on va dire le credo au début de la foi, au début de la messe. Bon, on l'a choisi à ce moment-là. En même temps, il y a déjà, dès le début de la messe, un petit credo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen, ça veut dire je crois. Donc tout de suite, on a dit, ben voilà, on est là, on est réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est possible de franchir ce seuil quand la parole de Dieu est annoncée, que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Traverser cette porte implique de s'engager sur un chemin qui dure toute la vie. Il commence par le baptême, par lequel nous pouvons appeler Dieu du nom de Père, et s'achève par le passage de la mort à la vie éternelle. Fruit de la résurrection du Seigneur Jésus, qui par le don de l'Esprit Saint a voulu associer à sa gloire elle-même tous ceux qui croient en lui. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, vous voyez, on est en train de nous dire deux choses, enfin plusieurs, mais quand je regarde de loin qu'est-ce que la foi, à travers ce texte, je comprends que la foi, c'est en fait une parole qui est de Dieu qui est annoncée, c'est-à-dire un Dieu qui vient vers moi, et moi qui viens vers lui. Il faut que la parole de Dieu soit annoncée et que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Il faut que j'accepte de m'engager. Traverser cette porte implique de s'engager sur un chemin qui dure toute la vie. C'est pour ça que je vous ai mis dans un schéma juste au-dessus, donc juste au-dessus du texte 3, le texte 2, Le schéma s'appelle les quatre dimensions de la foi chrétienne. Et voyez, en haut du schéma et tout en bas du schéma, vous avez les deux grands éléments de la foi. C'est quoi? Un don de Dieu, la parole de Dieu est annoncée, et une réponse de l'homme, il faut se laisser faire et s'engager. Ça va? Là, c'est le zoom lointain. Qu'est-ce que la foi? Comment avoir la foi? Ben, faut que la parole de Dieu soit annoncée. Je reprends Romains chapitre 10, verset 14. Comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment l'entendre sans prédicateur? Romains 10, 14. Donc, faut d'abord l'annoncer. Donc, en fait, quand vous réfléchissez, nous avons tous eu la foi par quelqu'un d'autre qui nous a annoncé la parole. C'est pas dans notre chambre tout d'un coup. Bon. Ce qui veut dire pour nous, j'anticipe, mais c'est la question de la mission. C'est-à-dire que nous sommes le corps du Christ, donc puisque la tête est l'envoyé du Père, eh bien dans ce mouvement d'envoi du Père, nous sommes envoyés par le Fils. Donc il nous faut parler. Il faut aller voir les gens, il faut. Enfin, voilà. Faut chacun suivant son mode, hein, mais. Alors, ce qui est terrible, c'est que comme on est beaucoup dans la peur de plus en plus, dans une sorte de laïcisme un peu mal compris, etc. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire que. Voilà, moi je vois, oui, ça, les présences chrétiennes dans des milieux musulmans, ça pose pas de problème. Hein. Vous prenez à Marseille, on a pas mal de lieux qui sont les rochers. Le rocher, c'est des. Bon, donc. C'est des chrétiens qui sont là, ils sont bien reconnus comme chrétiens, la religieuse, elle a sa petite croix, tout ça. Donc, les musulmans sont très respectueux de chrétiens qui ont une vraie foi, en fait. Par contre, voilà. Enfin, ce qui pose problème, c'est les chrétiens qui, enfin, voilà, qui ont le nom, mais il n'y a rien derrière, ou ils se moquent, donc ça, c'est autre chose. Bon. Alors, donc la foi comme don de Dieu. Donc voilà, vous voyez, oui, non, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc les deux choses, voilà, parler, parole de Dieu, hein, il faut que donc cette parole de Dieu soit annoncée, il faut aussi se laisser faire et s'engager. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi la foi, les gens vous disent, ouais, si Dieu m'apparaît, je croirai. Bon, d'abord, si Dieu t'apparaît, tu vas pas croire, tu vas constater. La foi, c'est justement croire sans voir. Et puis, Dieu, justement, il veut qu'il s'engage. Il veut que tu t'engages dans une relation avec lui. Donc, il veut que tu te laisses faire. Il veut. En fait, il veut une relation d'épousailles. Bon. Dans une relation d'épousailles, je m'excuse, mais je prends la comparaison, parce que c'est la comparaison biblique. Nous n'avons jamais la certitude que l'autre est l'homme ou la femme de notre vie. Dans aucun mariage, on a la certitude que c'est. Nous avons des signes, et ces signes-là, eh bien, fait que nous pensons que nous sommes aimés et que nous pouvons aimer. C'est très des signes. Du coup, ce don de Dieu, je fais une petite digression réfléchie. Ce don de Dieu va passer par des signes, va passer par des paroles, va passer par des événements. Le grand événement, c'est Jésus-Christ. Il y a donc 2000 ans, qui est venu sur une terre. On le verra dans le credo. Hein. Il est mort sous Ponce Pilate. Pourquoi on dit sous Ponce Pilate? Pour dire que nous ne sommes pas une religion aérienne, mais que nous sommes bien situés dans l'histoire. Voilà. Que Dieu se révèle dans cette histoire et par cette histoire. Mais voyez tous ces événements, ces paroles, il me faut les regarder comme des paroles de Dieu. C'est-à-dire que la foi est un petit peu comme des lunettes. Ce don de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous donne? Il nous donne des lunettes. Prenez le texte numéro 4, que j'ai intitulé Du poids à l'opticien. Donc c'est encore Benoît XVI. La connaissance des contenus de la foi n'est pas suffisante si ensuite le cœur authentique, sanctuaire de la personne, n'est pas ouvert par la grâce, qui permet d'avoir des yeux pour regarder en profondeur et comprendre que ce qui a été annoncé est la parole de Dieu. Voyez, on nous dit, il faut qu'il y ait un contenu, Il faut qu'il y ait aussi une grâce, donc un don de l'Esprit Saint, parce que je peux avoir une Bible, si j'ai pas l'Esprit Saint, je vais pas comprendre grand-chose. Et cette grâce, ce don de l'Esprit Saint, ça va être comme des lunettes qui vont me permettre d'avoir des yeux pour regarder en profondeur. Si vous n'avez pas de lunettes, que vous êtes malvoyant, vous avez des yeux, mais vous ne pouvez pas regarder en profondeur. Regarder de très près, bon, mais pas tellement en profondeur. Et de comprendre. Donc, vous voyez, Dieu nous donne, en nous donnant la foi, il nous donne des lunettes. Je dis ça parce que souvent, nous pensons que la foi est pas tellement des lunettes, mais un poids. Un poids comme le poids d'une balance. C'est-à-dire qu'on dit en fait, moi, en fait, je sais pas, mais dans ma vie, ça a penché du côté de la foi, je crois. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai la foi. Ça a penché, moi je crois. Tu vois, donc là, tu imagines la foi comme un poids. Moi, ça, ah, toi, ça n'a pas penché du côté de la foi, dommage. Bon, ben ouais, mais moi, on m'a jamais appris, je sais pas quoi. Voilà. Et du coup, la foi est résumée un petit peu comme un saut dans le vide. Ça a penché du côté de je crois. D'accord, mais pourquoi tu crois? Quelle raison? Ah, mais je crois parce que je crois, mais ben c'est tout. Non, non, c'est pas ça, la foi. La foi, c'est pas un poids qui fait que la balance, elle penche. La foi, ce sont des lunettes. C'est-à-dire que j'ai des éléments précis, la Bible, l'Église, l'événement de Jésus-Christ, mon frère, il y a plein d'éléments. Les miracles, Jean-Paul II, ce que vous voulez. Bon. Et moi, j'ai des lunettes pour voir à travers, sous ces événements, Dieu qui parle. Ce n'est pas un saut dans le vide, la foi. La foi, c'est reconnaître ce qui est présent comme présence de Dieu. Ça va? C'est simple, hein? Et c'est ce qu'on dit aussi quand on parle des signes. Vous savez, les gens vous disent, oh, moi j'ai vu un signe. Bon, on peut se moquer un peu. Le signe, il est souvent lié à la personne. C'est-à-dire que la personne prend ça comme un signe. Une autre personne dira, ah non, ce que tu as vécu, moi je ne vois pas vraiment un signe. Des fois, elle peut voir un signe, hein, quand même. Mais voyez, la personne, quand elle dit j'ai eu un signe, ça veut dire que j'ai en fait des lunettes qui fait que cet événement qui s'est passé dans ma vie, pour moi, il est parole de Dieu. Tu peux pas le comprendre, t'es pas dans ma vie, mais je te dis pour moi c'est ça. Puis d'autres, ah oui, c'est quand même impressionnant. Enfin, moi j'ai eu un signe, je vous donne un signe. quand j'ai été, c'est des signes tout bêtes, mais ça va peut-être pas vous parler, c'est pas grave. Quand j'étais dans mon diaconat, donc avant d'être prêtre, le diocèse vous prête toujours un calice à vie. Donc vous appelez le diocèse et puis vous dites, ben voilà, donc j'ai appris que je pouvais avoir un calice, donc que je rendrai à ma mort, enfin que d'autres rendront. Donc quand est-ce que je peux venir le chercher et le choisir? Bon, la dame me dit, écoutez, voilà, oui. Donc oui, on doit vous en donner un. Alors, on n'en a pas beaucoup en ce moment parce qu'on est en déménagement, mais enfin bon, passez quand même. Et puis voilà, si ça ne vous plaît pas, parce que tous nos stocks sont un peu voilà, mis ailleurs. Et alors, en fait, comme j'aime bien les belles choses, les belles chasubles, les beaux machins, j'avais trouvé un calice un jour dans une église, enfin, quand je célébrais, voilà, et j'avais photographié le calice. Et j'avais dit, à mon avis, ils n'auront pas le calice qui me plaît, je suis un peu compliqué, donc je vais lui apporter la photo, et quand elle aura le calice, un calice approchant, c'est pas le même, eh bien à ce moment-là, elle me téléphonera, quoi. Je vais pas prendre un truc qui ne me plaît pas. Donc j'arrive. Il y avait trois boîtes, il n'y avait pas grand-chose. Je sors le calice de la première boîte, et c'était celui-là. Enfin, je pourrais vous montrer les photos parce que c'est dans mon album photo. Il était légèrement mieux en plus, mais la même tulipe, le même anneau, enfin il y avait deux anneaux au lieu d'un. Et voilà, donc c'était, mais je vous montrerai le photo, c'est assez impressionnant en fait. Bon. Donc j'ai eu trois signes comme ça avant mon ordination. Bon, on va pas faire tous les signes, mais je vous montrerai, tous les signes sont dans l'album photo. Quand vous passerez, j'aurais dû apporter, j'ai pas pensé. Bon, alors voilà. Voilà. Et Don de Dieu, donc don de Dieu, don, grâce de Dieu qui me permet d'avoir des lunettes, et réponse de l'homme. La réponse, c'est voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper avec lui et lui avec moi. Hein. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est bien cette expression d'Apocalypse chapitre 3, verset 20, parce qu'on nous dit que c'est à nous d'ouvrir la porte. Tu entends, mais est-ce que tu veux bien ouvrir la porte, hein? 3, verset 20. Alors, ensuite, la foi, nous avons quatre éléments que j'aime bien illustrer avec le démoniaque au début de l'évangile de Marc. Donc, je vais reprendre ce démoniaque, je vais le lire. Voilà. Chapitre 1, verset 21. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm, aussitôt le jour du Shabbat. Il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé de son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Silence, sors de cet homme. L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région. Alors, la question que je posais, c'est en fait, vous avez un homme qui dit quelque chose de très juste. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Bon, alors pourquoi, vous voyez, Jésus, au début de l'évangile, lui demande de se taire? Parce que vous avez un grand missionnaire. Il fait de la pub. Jésus rentre dans la synagogue et vous avez ce démoniaque qui dit, Ah, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Alors, il n'y croit pas, voilà. Et du coup, en fait, qu'est-ce que veut dire il croit ou il ne croit pas? C'est-à-dire qu'il sait des choses sur Jésus. Avoir la foi, ce n'est pas savoir simplement des choses sur Jésus. Mais c'est adhérer à Jésus. Hein? Les saints n'ont pas dit des choses vraies. Les saints ont été vrais. D'accord? Il y a comme donc chez ce démoniaque une division entre ce qu'il sait et ce qu'il croit. On remarquera que les démoniaques dans l'évangile ne disent jamais le mot de Seigneur. Parce que Seigneur, ça veut dire que je veux bien obéir. Le Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Et non, ils ne veulent pas. Ils disent Saint de Dieu, ils font de la théologie, mais ils ne vont pas prononcer un mot qui implique une soumission. Ce qui veut dire que pour nous, il faut un petit peu discerner toujours les voies de Dieu. Vous voyez, on peut dire des choses, entre guillemets, vraies, mais qui ne le sont pas. Mais même pour notre vie, hein, on peut faire des choses pour Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est religieux extérieurement que c'est juste. On peut faire des choses pour Dieu. Ben, je peux, je sais pas moi, monter un super projet, mais ce projet-là, en fait, il n'est pas. Dieu me demande pas de le faire. Ouais, je sais pas. Enfin, quel projet, enfin, je sais pas. Je fais un club de philatélie pour tout le Morbihan. Je suis un prêtre passionné de timbres et je me dis, ben ouais, la philatélie, ça peut rejoindre des gens parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par les timbres et donc, à travers la philatélie, on va rejoindre beaucoup de gens. Bon, peut-être, mais peut-être pas. Enfin, bien sûr, tu rejoins des gens partout. Dès que tu aimes quelqu'un, tu rejoins. Enfin, c'est pas très dur de rejoindre des gens. Hein. Il suffit d'aimer. Mais le curé, il n'est peut-être pas appelé à faire un club de philatélie, ou peut-être qu'il est appelé. Il doit discerner, vous voyez. Et nous tous, c'est la même chose. On peut très bien s'engager dans la vie paroissiale pour fuir sa famille, et puis, enfin, on peut tout imaginer. Alors, du coup, c'est pas mal ce petit démoniaque parce que ça nous donne les quatre dimensions de la foi. Et c'est ce que je vous ai mis au cœur du schéma. La foi est personnelle, elle est communautaire, elle est une adhésion intérieure et un contenu extérieur. Alors, je vais prendre les quatre points, voilà, les uns après les autres. D'abord, la foi est une adhésion. Une adhésion à une personne et non pas à des valeurs. Une adhésion intérieure. Vous avez une petite référence, Jacques chapitre 2, verset 19. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Saint Jacques, en chapitre 2, verset 19, évoque bien la possibilité de croire comme un savoir, un peu à la manière des démons. Quand on dit je crois en Dieu, dans cet accusatif, c'est je crois en allant vers Dieu. On ne dit pas je crois que Dieu est tout-puissant. Le credo, c'est pas je crois que Dieu est tout-puissant, je crois que son Fils est unique et ceci, je crois que. C'est pas je crois que. C'est je crois en Dieu. C'est-à-dire je remets ma personne à Dieu. C'est ce que dit la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 21. 1 Pierre 3, 21. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ. Être baptisé, ce n'est pas simplement de manière passive être purifié de souillures extérieures, mais c'est s'engager. Donc, vous voyez, la foi n'est pas des, ce ne sont pas des valeurs. Quand je suis dans le train, des fois, je discute avec le voisin, la personne me dit, je partage vos valeurs. Ben, les valeurs, non, le démon, il est très d'accord avec les valeurs. Le fils aîné de la parabole du fils prodigue, il a des valeurs aussi. Donc, ceux qui ont fait sauter Charlie, ils ont des valeurs. Enfin, ils ont tous des valeurs. Ben oui. Mais c'est pas la foi, c'est pas l'adhésion à des valeurs. C'est l'adhésion à une personne. Je suis pas un agent de police. Je suis pas un éducateur spécialisé en tant que prêtre. Je suis celui qui rend présent une personne, qui est Jésus. Voilà. Je peux, par exemple, une bande de gangsters. Je peux croire ce qu'ils disent parce que je fais une enquête. Donc, je vais faire mon enquête et puis je vais les questionner. Et puis l'un va me dire telle chose, l'autre telle autre. Puis, en fait, je vais croire leur récit, bon, par recoupement, etc. Mais croire le récit des gangsters, c'est pas adhérer aux gangsters. Donc, il faut bien faire la différence entre la notion, les notions, et le démon, il est très fort dans les notions, et la personne. Du coup, quand on dit, vous voyez, je suis croyant non pratiquant, ça ne peut pas marcher, ça. Parce que les démons, ils sont croyants non pratiquants. Voilà. Donc, c'est la même chose. Alors, la question, est-ce qu'on peut perdre la foi? En fait, dans l'évangile, quand on parle de la foi, on en parle un peu comme une graine. Je vous reprends le chapitre 17 de Saint-Luc, verset 6. Luc 17, 6. Si vraiment vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Luc 17, 6. Alors, c'est important. Je signale que la traduction exacte de ce texte, c'est donc celle que je viens de lire, c'est si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, et non pas si vous aviez de la foi, si vous aviez, oui, de la foi, aussi gros qu'une graine de moutarde. Oui, il y a ce mot de grosseur qui n'est pas dans le texte. C'est-à-dire, si on est en train de nous faire croire que, ben, en fait, la foi, faut en avoir un petit peu, et quand on a rien qu'un petit peu, eh bien, ça fait beaucoup. C'est pas la question, c'est pas la quantité. Quand Luc parle d'une graine de moutarde, il en parle comme quelque chose de croissant, de vivant. C'est pas une question de grosseur. Donc le mot gros, vous pouvez l'effacer de votre Bible. La question, c'est une croissance, c'est-à-dire que cette foi, elle peut grandir ou elle peut diminuer. C'est ça la question. Donc je peux perdre la foi, on ne perd pas la foi comme on perd ses clés. Mais non, on perd la foi comme on perd une relation amoureuse, c'est la même chose. Une relation amoureuse, ça s'entretient, c'est nourri par le pardon, par des gestes de tendresse, par des cadeaux, par des paroles valorisantes, par tout ça. Et donc si tous ces éléments qui permettent d'aimer ne sont plus là, au départ, c'est un petit truc, hein, on ne se dit pas pardon avant de s'endormir, et puis à un moment donné, voilà, et puis à un moment donné, il y a deux vies parallèles et tout. Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. En fait, à un moment donné, bon, je loupe la messe une fois, et puis à un moment donné, oh, je me confesse plus, et puis à un moment donné, oh, je prie plus, et puis à un moment donné, puis il m'arrive un grand accident, et puis voilà, si Dieu est bon, hop, et j'ai plus la foi. Mais oui, mais ça n'a pas été du jour au lendemain. Voilà. Bon. C'est pour ça qu'on parle de la foi comme d'une vertu. Alors la vertu, c'est un mot de théologie ou d'anthropologie qui veut dire une habitude. Bon, sauf qu'on ne prend pas le mot habitude parce que le mot habitude, il est enfermant. Quand on dit ah, j'ai l'habitude, ça veut dire je suis pris dans cette habitude, je ne suis pas libre. Or la vertu, c'est l'inverse. La vertu, c'est une habitude qui rend libre. Hein? Si je prie tous les matins à 7h30 du matin, eh bien, à la fin, ça devient facile de prier à 7h30 du matin, parce que c'est une habitude, c'est ancré. Voilà. On voit bien dans l'éducation, quand des enfants ont reçu telle ou telle habitude, eh bien, ils sont plus libres. Il y en a d'autres, faire la vaisselle, c'est un effort colossal, parce qu'ils n'ont jamais fait la vaisselle de leur vie, donc c'est colossal. Ils ont l'impression d'avoir fait leur grand effort de carême en faisant une fois la vaisselle. Et pour d'autres, c'est naturel. Hein? Donc c'est pas tellement un effort. Et donc la sainteté, ça va être de travailler sur les habitudes. C'est pas de faire des actes héroïques comme ça, deux, trois fois, je sais pas quoi, dans l'année, mais c'est de créer des habitudes pour passer de je fais des actes bons à je deviens bon. Voilà, implication. Je vous lis cette petit épisode de Charles de Foucault. Charles de Foucault n'en finissait pas d'interroger l'abbé Huvelin sur les raisons de croire. Fin octobre 1886, il lui rend visite à la paroisse Saint-Augustin à Paris, avec la ferme intention de poursuivre le passionnant dialogue. Donc, Charles de Foucault, il aime parler, il aime réfléchir, il a des questions. Elles sont belles, ces questions. Mais, aux surprises, confessez-vous, lui commande le vicaire, qui aperçut que le fruit était mûr. Donc Saint-Augustin, Charles de Foucault se confesse, il se convertit. Vous voyez, donc ça, comment il a eu la foi? Il a eu la foi en posant un acte. En fait, un acte d'adoration de Dieu à travers le sacrement du pardon. Voilà, vous lirez le texte numéro 5 et vous le lirez chez vous, parce que c'est pas la peine que je perde trop de temps. Cette adhésion, il est important de comprendre qu'elle est première par rapport à la confession. L'adhésion est première par rapport à la confession. Donc la confession, c'est le contenu. C'est premier. On le voit dans la Bible quand Dieu donne au peuple toute sa loi. Hein? Vous l'avez dans l'Exode, entre les chapitres 19 de l'Exode et 24. Et le peuple de Dieu dit, voilà, toute la loi que nous avons entendue, eh bien, nous la ferons et nous l'entendrons. Nous ferons cette loi et nous l'entendrons. Ou nous la ferons et nous la comprendrons. Pareil. Vous avez ça en Exode, chapitre 24, verset 7. Alors, c'est curieux, quand on regarde de près, on se dit, on devrait plutôt avoir tout ce que Dieu a dit, nous l'entendrons, ou nous le comprendrons et nous le ferons. Mais non, c'est l'inverse. D'abord, tu fais, ensuite, tu comprends. En fait, c'est comme ça. Si tu veux savoir pourquoi prier, toutes les raisons, et prie. Et en priant, tu comprendras pourquoi il faut prier. Si tu veux savoir en quoi, à quoi, quel est ton talent pour servir l'Église, hein, n'attends pas, fais pas une retraite de 15 jours, je sais pas quoi. Non, engage-toi. Et en t'engageant, tu verras ce pourquoi tu es fait. C'est parce que tu poses un pas que tu vois si tu es fait pour ça ou pas. C'est en faisant les choses que nous avons la lumière. Un petit peu comme les jardins sophistiqués, vous savez. Vous sortez du garage, vous entrez dans le jardin et vous avez une lumière dans le jardin. Mais tant que vous n'avez pas posé un pas dans la nuit, la lumière ne s'éclaire pas dans le jardin. J'ai osé aller dehors dans la nuit et la lumière s'est éclairée. Hein? Je fais et j'ai la lumière. Hein? Ta parole est une lumière sur mes pas. Donc c'est parce que j'avance que la mer s'ouvre. Et tant que je n'avance pas, la mer ne va pas s'ouvrir. Bon, je dis ça parce que des tas de gens, en fait, qui attendent d'avoir toutes les sécurités pour s'engager dans un truc. Bon, mais j'en dis, non, enfin, osez. Et vous verrez, même pour l'adoration, c'est ce qu'on dit, écoutez, essayez 3 semaines, essayez 1 mois. Et au bout d'un mois, si ça ne va pas, vous arrêterez. Vous fonctionnez de manière inverse, donc c'est un peu le problème. Bon. Et c'est ce que fait, voyez, c'est ce que dit Jésus. Jésus, comment il commence son évangile? En disant, convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est pas croyez à l'évangile et convertissez-vous. C'est d'abord convertissez-vous et croyez à l'évangile. Quittez d'abord ce qui vous empêche. Et comment je vais quitter? Pourquoi je vais quitter? J'en sais rien, moi. Est-ce que vous allez me donner le royaume? Est-ce que je vais être comblé? Ah ben ça, un petit peu comme Abraham, faut d'abord que tu quittes. Oui. Faut que tu payes avant. Ah oui. On paye avant de recevoir. On pose un pas dans la nuit d'abord. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Donc on a déjà un peu de foi, oui, en posant un pas dans la nuit, en fait. Oui. L'acte de foi est précédé par un don de Dieu, en effet. Mais voyez, ça peut être plus compliqué par rapport à d'autres questions, des questions de morale, hein. Vous voyez, tout ce qui va concerner, par exemple, la contraception, l'avortement, l'euthanasie. Bon, l'avortement, c'est plus facile. La contraception, l'euthanasie, ça l'est moins maintenant. Enfin, quoi. Voyez, je dis, je fais confiance à ce que me dit l'Église. Et en le vivant, je vais comprendre. Même la cohabitation. J'avais un couple de fiancés, assez catho. Je leur disais, écoutez. Enfin, vous savez que vous êtes vraiment chrétien, donc vous ne faites pas chambre commune, enfin bon, voilà. Parce qu'il y a un sens du sacrement, c'est Dieu qui va lier le mariage, donc il y a un sacrement qui fait que le don des corps est lié au don de Dieu, enfin bref, il y a toute une théologie derrière. Et là, ils ne comprenaient pas. Bon, alors j'aurais fait tout un truc, j'aurais fait un document qui explique tout ça, j'aurais donné le document, ils ne comprenaient toujours pas. Oui, au niveau de l'intelligence, ça ne marche pas. Donc, il se trouve qu'un jour, ils ont fait un pèlerinage de chars, des étudiants. Et à la fin du pèlerinage, il m'a dit, en fait, j'ai compris. Voilà, il y a une grâce. Donc, voilà, ce qui veut dire que, voilà, il faut. En fait, il a eu des lunettes. Bon, enfin, il a eu une grâce. Voilà. Voilà, adhésion et confession. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dire aussi? Non, voilà. Cette remise à Dieu, qui va passer aussi par une remise à l'Église, va nous introduire dans une connaissance beaucoup plus riche. Et si je ne crois que ce que je vois, que ce que je comprends, que ce que je mesure, voyez, d'abord ça pose un problème au niveau de la foi. C'est-à-dire que la foi est alors ce que je comprends, ce qui est à ma dimension. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui dirait, moi dans le credo, ou dans la foi de l'Église, je crois en fait à 99% tout, sauf 1%, un truc là je ne crois pas. Alors vous pouvez dire, bon, c'est pas très grave, en fait, ils croient en tout. Si, c'est grave. Parce que, en fait, les 99% sont en fait mesurés par lui-même. Donc, c'est pas, il n'entre pas dans quelque chose de plus grand qui le dépasse, il a tout mesuré. Hein, et en fait, c'est pas lui qui reçoit la foi comme un don de Dieu, c'est lui qui, enfin, qui, on va dire, qui accueille un savoir, enfin, qui prend un savoir, qui mesure un savoir. Et du coup, en fait, il n'y a pas véritablement d'acte de foi, en fait, dans cette affaire. La foi, c'est la remise de nous-mêmes, la remise de notre personne aux crises, qui va passer aussi par une bienveillance, un assentiment à ce que dit l'Église. Et l'Église, du coup, va m'introduire dans quelque chose de beaucoup plus grand. Par nous-mêmes, je ne pense pas qu'en lisant la Bible, nous aurions réfléchi à la résurrection de la chair. Bon. Par nous-mêmes, je ne pense pas que nous aurions compris toute la théologie du corps, la beauté du corps, et tout ce qu'a développé Jean-Paul II pendant 3 ans. Ben, on voit bien comment l'Église, si vous voulez, nous introduit à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est plus payant. Je l'avais fait avec l'exemple de la Bretagne. Vous voyez, vous voulez découvrir la Bretagne. Bon. Vous pouvez prendre un petit bouquin, là, le guide vert de la Bretagne. Bon. Vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi trouver une bonne personne à qui vous allez faire confiance. Vous dites, bon alors Gilles Nicolet, t'es libre, est-ce que j'ai 2 jours pour voir la Bretagne Sud. Tu peux m'emmener dans les petits coins. Ah ouais, écoute, je vais t'emmener. Et puis, il va pas vous amener à Sainte-Anne-de-Ré ou à Auray-Saint-Goustan, là. Il va vous emmener en haut. Vous allez voir le petit port par le haut et tout ça. Il va savoir. Voilà. Vous introduire dans quelque chose qui, en fait, qui est pas marqué dans le bouquin. Bon. Donc voilà. Et nous nous apercevons que notre vie, nous vivons d'actes de foi perpétuellement. Les gens vous disent, je crois si je vois. Mais je te signale que tu exerces ta foi tout le temps quand tu prends le bus. Tu dis, ben, je crois que la personne va me conduire au bon endroit. Bon, t'as pas de garantie. Donc, quand tu vas manger au restaurant, tu penses que c'est pas empoisonné. Parce que s'il fallait à chaque fois que tu examines le petit morceau de viande, tu le passes dans ton truc, bon, tu peux passer longtemps. Parce qu'à la fin, il n'y a plus de viande à manger. Hein. Bon. Alors, la deuxième chose, c'est un contenu. La foi est un contenu, hein. Ça veut dire que, voyez, par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, il demande à la foule à être disciple qu'après avoir montré qu'il était un Messie crucifié et ressuscité. 8, 31. Hein? En 8, au chapitre 8 de saint Marc, il dit, bon, voilà, bon, d'abord il posait une question, pour vous qui suis-je? Ah, Pierre dit, tu es le Messie. D'accord, et on nous dit, et à ce moment-là, il commença à leur enseigner. C'est très fort ce mot de commencement et ce mot d'enseignement. Il commença à leur enseigner, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être tué par les grands prêtres, etc. Et ressusciter. Juste après. Si quelqu'un veut venir à ma suite et devenir mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Là, c'est une adresse à toute la foule, si quelqu'un veut venir à ma suite. Il ne dit cela qu'après avoir dévoilé, voyez, ce qu'il était dans sa totalité. À partir du chapitre 8 de saint Marc, en fait, nous savons tout sur le Christ. On sait qu'il va mourir, on sait qu'il va ressusciter. Il n'y a plus rien à connaître. Il a dit totalement sur lui-même et il dit, bon voilà, maintenant que je me suis dévoilé, est-ce que tu veux me suivre? Voilà. C'est ça, voyez. Nous avons besoin d'une connaissance, cette deuxième dimension de la foi, d'une connaissance pour adhérer, pour nous engager. J'ai besoin de connaître qui est le Christ pour m'engager aussi. La foi du charbonnier, c'est pas possible, hein? Dire je crois, oui, mais en fait tu t'aperçois que ta foi va être riche, ton engagement va être fort, parce que tu vas connaître aussi. Hein? Pourquoi nous sommes là ce matin? Pour nous engager davantage. Hein? On nourrit notre intelligence pour s'engager davantage. Donc c'est important, voilà, quand on a des questions sur la foi, de les noter, de ne pas rester tout le temps dans l'approximatif, etc. Troisième dimension, cette fois, elle est personnelle. C'est moi qui crois. Donc, vous voyez, quand les gens vous disent, écoutez, priez pour moi, priez pour moi. Bon, je leur dis parfois, écoutez, priez vous aussi. Je ne peux pas prier la place. Enfin, c'est comme aimer. Comme si la personne me disait, aimez pour moi, aimez pour moi. Bon. Alors, bien sûr qu'il y a l'intercession, il y a la communion des saints et tout ça. Bon, je vois ce que ça veut dire. Mais vous voyez, quand une personne non pratiquante, rien du tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire, dit priez pour moi, je dis, il y a un petit souci. Ben, il délègue, oui, mais on peut travailler à la place d'une autre personne. Hein. On peut remplacer quelqu'un au travail. On ne peut pas aimer à la place d'une autre personne. Ça ne se délègue pas l'amour. Hein. Bon. Donc, non, elle est personnelle, votre foi. Hein. Quand Paul parle, il va parler de mon évangile, Romains 2,16. Voilà, moi, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est la parole de toute l'Église, à travers ce que dit Paul, mais Paul a des accents situés dans un contexte, donc il parle de... Voilà, ça. C'est toujours marqué. Moi, enfin, certains... Ceux qui ont fait le parcours Saint-Marc, par exemple, ont vu comment l'itinéraire du disciple était marqué par ce que j'avais moi-même vécu. Donc, c'est important, voilà, d'avoir quelque chose de personnel. On s'apercevra que dans notre foi, eh bien, il y a tel ou tel élément qui nous est plus personnel. Par exemple, pour certains, Saint-Joseph, c'est très important dans leur vie. Bon, d'autres, ils ont Saint-Joseph, ça ne leur parle pas tellement. La Vierge Marie, c'est pareil. Pour certains, c'est important, d'autres, non. Pour certains, la petite Thérèse, c'est super. D'autres, bon, je ne vois pas trop. Enfin, voilà. Vous voyez, les anges. Après, chacun, vous voyez, on va avoir tel ou tel accent. Le but, c'est qu'on soit d'accord sur le credo. Bon, voilà, on est d'accord. Après, en dehors de ce credo-là, nous avons un peu chacun notre credo, les points importants. La dernière dimension de la foi, c'est qu'elle est communautaire. Voilà. On reçoit la foi de l'Église en étant dans l'Église. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait une entrée en catéchuménat dimanche de Renaud, hein, donc un jeune qui sera baptisé dans 2 ans. Et je lui ai posé la question, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Et il a répondu, la foi. Et qu'est-ce que vous donne la foi? La vie éternelle. Voilà, donc, c'est de manière communautaire que nous croyons, hein, comme je vous l'ai déjà dit, nous recevons la foi de l'Église. Voilà. Ben vous lirez le texte numéro 39. 39, texte numéro 6, voilà, la lumière de la foi numéro 39. Donc le texte numéro 6, et vous le lirez chez vous. Quand on voit Thomas, hein, Saint Thomas, en fait, on s'aperçoit qu'il croit que quand il revient au Cénacle avec les 12. Quand il est tout seul, il n'a pas la foi. C'est parce qu'il revient au Cénacle, eh bien, que le Christ apparaît, parce que les 12 sont là aussi. Alors, je vais, voilà, je termine sur l'aspect, voyez, un petit peu de cet éclairage sur la foi, avec ces deux dimensions, don de Dieu, travail de l'homme. Et au cœur, comme un zoom, les 4 dimensions, personnelle, communautaire, adhésion, contenu. Ça va? Je crois que le schéma est quand même bien fait. Voilà. Alors, maintenant, je reviens à la messe. Non, mais c'est important de s'aimer soi-même, Véronique. Bon. Alors, donc, je reviens à la messe avec nos deux formules. Nous avons donc deux formules possibles, qui est le symbole des apôtres et le symbole dit de Nicée-Constantinople, que je vous ai mis en première page. Alors, je reprends ce que dit le catéchisme sur ces deux textes. Hein, vous l'avez au numéro 194. Hein. Là, vous n'avez plus de texte, mais vous regardez dans le caté. Je lis le symbole des apôtres, appelé ainsi parce qu'il est considéré à juste titre comme le résumé fidèle de la foi des apôtres. Il est l'ancien symbole baptismal de l'Église de Rome. Sa grande autorité lui vient de ce fait. Il est le symbole que garde l'Église romaine, celle où a siégé Pierre, le premier des apôtres, et où il a apporté la sentence commune. Alors, en fait, donc, il nous vient des apôtres. Après, il y a une légende qui dit que chaque, comme il y a 12 articles, en fait, chacun des apôtres a dit un article. Donc, tout ça, c'est du domaine de la légende plutôt. Après, j'ai regardé un petit peu, essayé de travailler sur comment il a été constitué au fur et à mesure. On ne sait pas très très bien, c'est pas très précis, cette constitution, comment on arrive au texte final. Du coup, je m'arrête là, ce qui n'est pas le cas du symbole de Nicée-Constantinople, donc le grand texte, qui là est le fruit du concile de Nicée et de Constantinople, ce qui est plus facile à voir comme origine. Du coup, voilà, le symbole dit de Nicée-Constantinople tient sa grande autorité du fait qu'il est issu des deux premiers conciles. Voilà, donc 325 et 381, hein, donc au 4e siècle, c'est fixé. Il demeure commun aujourd'hui encore à toutes les grandes églises de l'Orient et de l'Occident. Alors, vous avez vu ces deux textes, donc le plus ancien, hein, symbole des apôtres, le plus récent, Credo de Nicée-Constantinople. Je les ai mis en parallèle. Et j'ai mis en gras, en fait, les trois personnes de la Trinité. Vous avez Dieu, le Père, ensuite Jésus-Christ, et ensuite l'Esprit-Saint. Donc nous partons de Dieu, et nous arrivons à Dieu. C'est important, hein? À la fin, c'est « Je crois à la vie éternelle et la résurrection du monde à venir ». La vie éternelle, nous croyons non pas à l'éternité, mais à l'éternel. L'éternité, je ne crois pas au temps, je crois à une personne encore là. Hein, au ciel, nous allons rencontrer non pas l'éternité, mais l'éternel. Nous allons rencontrer quelqu'un. Donc voilà, donc je commence, c'est important, hein, je commence comme je termine. Et quand on réfléchit, vous apercevez que tout est lié. Si vous enlevez un élément du credo, eh bien votre foi, elle tombe par terre. Vous pouvez prendre, vous dites, tiens, mais on pourrait quand même ne pas mettre cet élément-là. Et je peux vous montrer qu'à ce moment-là, ben, tous les autres éléments, ils tombent par terre. Bon, on ne va pas faire l'exercice là, mais
Ce serait bizarre.
ben, dites, tiens, qu'est-ce qu'on peut enlever? Puis je vous montre que, voilà.
C'est fait homme.
Ah ben, si c'est fait homme, donc ça vous enlevez qu'il s'est fait homme. Ben alors, on va le voir. Et du coup, si c'est pas fait homme, du coup, il nous a pas sauvés. Hein? Puisque tu ne peux sauver que ce que tu as été chercher. Si on n'est pas sauvé, il n'y a pas de vie éternelle. S'il ne nous a pas sauvés, Marie n'est pas la mère de Dieu. Enfin, voilà. Tous les éléments sont pris. Bon. Alors, en fait, vous voyez, c'est beau parce qu'au début de la célébration, nous avons fait le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons là, au milieu de la messe, la grande confession de foi, notre confession de foi, qui reprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein, mais en développement, en fait, hein. Ce premier credo qu'on a au début de la messe, on le développe. Alors, je vais dire quelques éléments sur la Trinité d'abord, et ensuite sur le symbole de Nicée. Sur la Trinité, très simple, hein. Vous remarquez que dans le credo, on va associer à chacune des personnes un élément plus particulier. On va associer au Père la création. Hein? Je crois en Dieu le Père créateur. Hein? Souvent, voilà, le Père est créateur. Ça ne veut pas dire que le Fils n'est pas créateur. On nous dit aussi, par lui, tout a été fait. Et sans lui, rien n'a été fait. Par lui, tout a été fait. Donc, vous voyez, le Fils aussi est créateur. Mais on va laisser au Père la création comme le principe, le commencement des choses. Bon. On va associer au Fils la rédemption. Le Père, c'est le Créateur. Le Fils, c'est le Rédempteur. Et vous voyez dans le credo, eh bien, tout ce qui va toucher le Fils, on va beaucoup parler de il s'est fait homme, il a été crucifié sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, il ressuscita. C'est-à-dire, en fait, 3 jours dans la vie du Christ, ça prend une proportion dans le credo énorme. Voilà. C'est la rédemption. Voilà, on va associer davantage. Et on va associer à l'esprit la sanctification. Sanctificateur. Le Père est créateur. Le Fils est rédempteur. L'esprit est sanctificateur. L'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il a parlé par les prophètes. Et juste après l'Esprit, on nous dit, je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique, je reconnais un seul baptême, le pardon des péchés. C'est-à-dire, je suis en train de montrer l'œuvre de l'Esprit. Hein, l'Esprit est l'âme de l'Église. Et donc l'Esprit Saint, à travers son Église, il me sanctifie, il me rend saint. Le Père m'a créé, le Fils m'a sauvé, l'Esprit me sanctifie, me rend saint. Voilà. Hein, l'Esprit que je vais vous envoyer, il va vous conduire vers la vérité tout entière. Dans le symbole de Nicée, ce qui est assez intéressant, c'est de voir les traces, en fait, historiques des hérésies qui sont derrière. Vous voyez, le symbole de Nicée, c'est un texte un peu polémique, enfin, qui fait référence à des combats, à des hérésies. Hein. Quand on nous dit, par exemple, sur l'humanité du Christ, on nous dit, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. On insiste. On aurait pu dire, il a pris chair de la Vierge Marie, point. Pas obligé de dire, s'est fait homme. Mais non, mais parce que vous avez des gens qui sont docettes. Hein, et donc, qui disent, en fait, il a fait qu'une apparence, il n'a pas vraiment été un homme. Donc, vous voyez, ce combat hein, contre le docétisme, eh bien, vous l'avez ici. Donc, cette négation de l'humanité qui était plus ou moins... négation aussi de la divinité... Hein, qu'on a comme une trace, on s'aperçoit, hein, qu'est-ce qu'on nous dit du Fils ? Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là ? On combat Arius, et on dit, en fait, il y en a qui pensent que Jésus n'est pas Dieu. Si, si, il est vraiment Dieu. Il est engendré, ça veut dire qu'il sort du Père, mais il n'est pas créé, attention, c'est pas une créature, il est vraiment Dieu. Vous voyez, les combats christologiques, vous les avez, par lui tout a été fait. On dit du Fils qu'il a tout fait. Bon. Et puis, vous avez aussi la trace, vous voyez, du combat par rapport à l'Esprit Saint, où, en fait, on peut penser que l'Esprit Saint, c'est un peu une créature, une création du Père et du Fils, mais qu'il est plus petit que le Père et le Fils. Hein? Non, pas du tout. Il reçoit même adoration. Et même gloire, il a parlé par les prophètes. Vous voyez, quand on lui dit même adoration et même gloire, on veut nous dire attention, hein, il n'est pas inférieur au Père et au Fils. Donc c'est beau, vous voyez, de voir à travers tout ce texte, eh bien, les combats, les questions qu'il y a derrière. Voilà. Bon, il est l'heure dans 5 minutes. Donc, j'ai à peu près tout dit sur le credo, ce que je voulais dire, donc ça va, voilà. Oui.
On dit je crois en quelqu'un, oui. En personne. Et justement, quand on dit c'est à la fin de en l'église, et là, il faudrait peut-être dire à l'église, d'après certains.
Ah oui, après. d'après certains. Je crois en l'église, oui. Oui, alors je vais. Donc, il y a une conférence qui existe. Vous pouvez télécharger sur l'IET. Donc vous avez un site qui s'appelle IET Bruxelles. Vous avez une conférence, tout un cycle de conférences sur la foi, l'année de la foi. Et vous avez une conférence d'une certaine sœur qui s'appelle sœur... sur justement cette question-là. Je l'avais écoutée dans ma voiture. Mais bon, voilà, donc je ne sais plus. Oui, voilà, c'est pas du même ordre. Mais elle vous explique pendant une heure qu'en fait, on peut quand même dire la même chose tout en comprenant autre chose. Donc, il faudra réécouter la conférence.
L'Église nous fait réciter l'une ou l'autre.
L'Église fait réciter l'une ou l'autre. Ben, pour des baptisés, moi, je vais prendre le premier parce que, vous voyez, dans la triple confession, donc les baptisés devront apprendre le premier, c'est génial. Et le deuxième, ben, c'est au choix. Ben pourquoi? Ça dépend si la messe est longue ou courte, je prends pas le même quoi. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas de problème, enfin possible, dans l'interprétation de je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés?
Je reconnais un seul baptême, donc oui. Nous avons le même baptême que les protestants, orthodoxes, catholiques, et ce baptême nous donne le pardon des péchés.
Oui, c'est-à-dire que ce baptême donne le pardon des péchés. Oui. Ça ne veut pas dire que seules ces personnes qui ont ce baptême peuvent être pardonnées.
Non, ça ne veut pas dire que seul. Oui, on a toujours dit qu'on pouvait aller au ciel sans être baptisé. Mais on nous dit quand même qu'en étant baptisé, on va au ciel. Donc,
Hein?
Oui, oui. Non, mais vous voyez, on a à la finale, par exemple, de l'évangile de Marc, tout homme, allez de toutes les nations, faites des disciples. Celui qui sera baptisé sera sauvé. C'est quoi la finale? Et celui qui ne croira pas en moi sera condamné. C'est pas pareillement symétrique. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera perdu. Donc on dit pas celui qui ne sera pas baptisé sera perdu. Vous comprenez? Je vais vous prendre le verset parce que vous allez penser que je suis en train de bricoler.
Je vois. Ça porte uniquement sur le baptême.
Hein, pardon?
Ça porte uniquement sur le baptême.
Oui.
Voilà. Ça n'engage pas, si vous voulez, la volonté de Dieu, par ailleurs, de pardonner à ceux qui n'ont pas.
Non, non, non. Proclamez, chapitre 16, Saint-Marc, verset 15. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Hein? Oui, refuser.
Voilà.
Ouais. Refuser, il n'y a pas le mot baptême. Voilà. Voilà. Alors, oui, je vais vous dire quelques mots sur la tête et puis on fera les questions à la fin, hein, pour ceux qui veulent partir, parce que je suis en retard, et après on prendra les questions, d'accord? Je vous fais 5 minutes sur la prière universelle maintenant. Ça vous va? Prière universelle. Nous avons entendu que tu es un Dieu, puissant. Hein, on l'a entendu dans le credo, tu as créé le ciel et la terre, donc c'est quand même extraordinaire. Si tu as créé le ciel et la terre, eh bien tu peux faire telle ou telle chose dans le monde. C'est parce que j'ai entendu les lectures, parce que j'ai entendu le credo, que je reconnais la puissance de Dieu et que je peux demander à Dieu quelque chose. On demande après cette confession. Cette demande, cette prière universelle, elle nous enracine dans le monde. Hein. Comme dit Jésus, Jean 17, 15, « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. » La présentation du mystère romain dit, « Dans la prière universelle ou prière des fidèles, le peuple répond en quelque sorte à la parole de Dieu, reçue dans la foi, et exerçant la fonction de son sacerdoce baptismal, le peuple présente à Dieu des prières pour le salut de tous. » Donc, cette prière universelle, elle n'est pas tout à fait pareille que la collecte du début de la messe. Au début de la messe, on avait dit qu'on déposait une intention personnelle, rappelez-vous. Et à ce moment-là, le prêtre rassemblait, il y avait un silence. Là, les intentions doivent être plus larges. Dans l'ordre, nous prions pour les besoins de l'Église, pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier, pour ceux qui sont accablés par une difficulté et pour la communauté locale. Les besoins de l'Église, les dirigeants politiques, ceux qui sont accablés par une difficulté et la communauté locale. Cette prière universelle, elle est d'origine juive et saint Paul en parle lui-même dans sa première à Timothée, chapitre 2, verset 1. 1 Timothée 2, 1. Je cite « Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. » Pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible, en toute piété et dignité. Voilà, hein, je recommande qu'on fasse des demandes.
Et des actions de grâce.
Et des actions de grâce, oui, pour tous les hommes. Voilà. Ça va, les besoins de l'Église, les dirigeants, ceux qui sont accablés par une difficulté, la communauté locale. Ça serait bien pour ceux qui rédigent des prières universelles dans nos paroisses de faire des prières un petit peu plus, enfin, un peu liées à l'actualité ou enfin, aux événements, à notre quartier. Bon, la communauté. Voilà, sinon c'est toujours je te prie pour la paix dans le monde. Oui. Alors à un moment donné. Voilà, donc. Bon, mais enfin, c'est pas non plus que de votre faute parce qu'elles sont demandées, je crois, très à l'avance, mais bon. Enfin, c'est à nous de voir comment faire pour coller plus, que ce soit vivant. Alors, comment Dieu nous exauce ? Deux petits points sur ça. D'abord, je vous signale que dans l'Évangile, comment on présente une demande ? Souvent, comment dire, demander, c'est présenter. Hein, vous avez ça avec Lazare. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jean chapitre 11. Vous voyez ? Celui que tu aimes est malade. Jean chapitre 11. Marie à Cana, ils n'ont plus de vin. Vous voyez, Marie n'est pas là à dire, il faut que tu fasses ci de telle manière, etc. Nous, on est un petit peu comme ça. Des fois, on veut être exaucé, ça veut dire qu'on veut que ça se passe de telle manière. On présente la situation. Dieu nous exauce toujours pour notre salut. Si Dieu nous exauçait selon nos désirs, on peut supposer que le monde serait à feu et à sang. Je vous signale que dans Luc chapitre 12, verset 13, Jésus dit « Quiconque demande reçoit ». Mais il ne dit pas ce que nous recevons. « Quiconque demande reçoit », je signale. Bon. Vous apercevez qu'à plusieurs reprises, Jésus n'exauce pas les gens dans l'Évangile. Vous prenez Marthe et Marie. Marthe, elle demande quelque chose à Jésus, Jésus ne l'exauce pas. Vous prenez les disciples. Les disciples demandent à Jésus d'écarter les enfants. Et Jésus n'exauce pas. Bon. Je me dis, moi je pense à Pierre Goursat, fondateur de l'Emmanuel, qui était passionné par tout ce qui était antiquité. Il voulait être conservateur de musée. Je me dis, il a certainement prié pour être conservateur de musée. Il voulait être conservateur du musée de Saint-Germain-en-Laye. Bon. Ben, heureusement qu'il n'a pas été exaucé. Bon, parce que on n'aurait pas eu une communauté derrière. Bon, moi je voulais être musicien de jazz, batteur de jazz. Bon, si j'avais été exaucé, ça aurait peut-être été mieux pour vous. Vous auriez eu un autre prêtre. Oh mais non. On vous aime. Bon, voilà, d'accord. Alors, vous avez un bon exemple, c'est Sainte Monique. Hein? Sainte Monique qui dit à Dieu, mais qu'il ne parte pas à Rome, hein, parce que Rome, c'est la ville de la prostitution, tout ça, etc. Et puis, donc, Augustin avait une vie un petit peu dissolue. Et donc Augustin commente, il fallait qu'il parte à Rome pour qu'il rencontre le Seigneur. Donc, le Seigneur n'a pas exaucé sa prière d'un jour, qu'il ne parte pas. Mais il a exaucé sa prière de tous les jours, qu'il se convertisse. Et donc voilà. Je termine par ce beau texte que vous n'avez pas, mais je vous donne pour terminer. Vous voyez, comme une belle conférence qu'on termine. J'ai demandé, alors ça c'est un texte qui est écrit sur une clinique de New York. J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible, afin que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. J'ai demandé la puissance pour obtenir l'estime des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré, presque en dépit de moi-même. Les prières que je n'avais pas formulées ont été exaucées. Je suis parmi les hommes le plus richement comblé. »